Chapitre 7. Quand le bâtiment va, l'architecture. Dans ce chapitre, nous étudierons l'histoire de l'architecture des origines à nos jours et les caractéristiques des grands styles architecturaux. Les premières traces d'architecture des bâtisses rondes enterrées dans le sol retrouvées dans le nord d'Israël datent de moins 12500. Mais il faut attendre le Mésolithique, du 8e au 4e millénaire avant Jésus-Christ, pour voir apparaître des villes comme Jéricho ou Maglemose, une cité lacustre au Danemark. Selon Vitruve, qui écrit au 1er siècle avant Jésus-Christ, l'architecture est la science qui embrasse une grande variété d'études et de connaissances, elle connaît et juge toutes les productions des autres arts. L'auteur d'un des premiers traités d'architecture insistait déjà sur la nécessité de savoir conjuguer la recherche de la solidité avec celle de la commodité et de la beauté. L'architecture dans l'Antiquité. L'architecture dans l'Antiquité occupe une fonction plurielle. Elle est à la fois fille d'une nécessité, loger la population dans des villes de plus en plus étendues et peuplées, mais doit aussi montrer la puissance des dieux et des souverains. Ne dit-on pas que la fameuse Pax Romana, la paix romaine, s'inscrit autant dans les légions que dans les bâtiments, symboles de la culture romaine ? Forum, théâtre, temple, ville. Des plateaux d'Anatolie au centre civique de Rome, visitons les lieux où s'inscrivent symboliquement dans la pierre la vie quotidienne et les rêves de gloire des hommes. L'architecture de l'Égypte ancienne. Évoquer l'architecture, c'est voir surgir dans notre imaginaire trois hautes silhouettes pyramidales sur un plateau désertique. La vie, la pensée, le sang même de l'Égypte, ce sont ses dieux. Rendons hommage aux rois dieux de l'ancien empire et à leurs collègues des bords du Nil, à Thèbes, entre les murs de Karnak et ceux de Louxor. Les pyramides. La pyramide à degrés, la plus célèbre en Égypte, est celle de Saqqara, haute de 60 mètres, œuvre d'Imhotep, 2649-2575 avant Jésus-Christ. 14 portes étaient simulées sur les murs d'enceinte, toujours ouvertes, mais une seule permettait de pénétrer dans la pyramide. La pyramide reste la forme du tombeau royal jusqu'à la fin du Moyen Empire, en 1786 avant Jésus-Christ. Les trois plus extraordinaires pyramides construites par les Égyptiens sont celles du plateau de Gizeh. Khéops, en 2528, Khéphren, en 2494 et Mykérinos en 2472. À leur côté se tient le grand sphinx figurant le roi Khéphren qui règne vers 2518 à 2493 avant Jésus-Christ sous la forme d'un lion à tête humaine. Les pyramides à degrés existent aussi au Proche-Orient sous la forme de ziggourats.
N'oubliez pas le mystère de la pyramide. Les textes des pyramides représente à ce jour le corpus religieux le plus ancien découvert en Égypte. Ounas, qui règne vers 2356-2323 avant Jésus-Christ, le dernier roi de la 5e dynastie, les avait fait graver dans sa pyramide. Réservés à l'origine au souverain et à lui seul, ils décrivent l'ascension du roi vers le ciel. Seuls 800 de ces formules ont pu être reconstituées. Les formules sont disposées dans la tombe depuis l'ouest, le pays des morts, où le soleil se couche, jusqu'à l'est, le lieu du soleil revenu à la vie, tout comme le roi.
Les temples. Parmi les autres monuments pharaoniques sur des sites mythiques, le temple de Karnak, près de Thèbes, et en face, à Dar el-Bahari, sur la rive opposée, le temple d'Hatshepsut et de son rival Toutmosis III. La vallée des reines et des rois offre une exceptionnelle richesse archéologique. Le temple de Louxor, édifié par Amenophis III au XIVe siècle avant Jésus-Christ, avec son allée de 2 kilomètres de long bordée de sphinx menant à 2 obélisques, puis, sous les Ptolémées entre 305 et 30 avant Jésus-Christ, les temples d'Esna, de Dendera et de Komombo restent d'importants centres religieux aux édifices entretenus et agrandis. L'architecture grecque et romaine. Les Romains sont les héritiers des Grecs dans plus d'un domaine, mais ce phénomène est encore plus marqué en architecture. En Grèce comme à Rome, l'architecture est avant tout civique. elle doit mettre en avant le génie propre à la cité, étendu à un empire prétendument universel. Dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, l'urbanisme préoccupe un grand architecte qui veut rationaliser l'espace urbain, Hippodamos de Milet. Celui-ci trace des plans révolutionnaires exposant une division fonctionnelle du tissu urbain avec une place et un rôle bien définis pour chaque zone. Les rues étant disposées en damier, les axes principaux se coupent en transversales. Il conçoit de la sorte les plans de Prienne et du Pirée. Ce plan sera celui de nombre de villes américaines. L'Agora. L'Agora se retrouve dans tout le monde grec, dont elle est la plus ancienne structure. La plus représentative est celle d'Athènes au nord-ouest de l'Acropole. Tout d'abord simple esplanade, l'Agora va peu à peu accueillir les principales activités de la vie publique. Les monuments culturels font leur apparition à la fin du VIe siècle, avant qu'elle ne soit envahie par les activités commerciales et du petit peuple. Le Forum. Le Forum est la place publique à la romaine. Comme son équivalent grec, le Forum n'est à ses débuts qu'une simple place délimitée par les rues du centre urbain. Peu à peu, il devient une place rectiligne bordée de portiques, comme à Pompéi. Vers 300, il s'orne de statues pour honorer les magistrats de la ville. Vers 200 apparaissent les premières basiliques. À la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ et au début du 1er siècle de notre ère, César et Auguste construisent des œuvres monumentales. Le Forum est entouré de bâtiments. Le tabularium, où se trouvent les archives d'État, les basiliques, où ont lieu les procès publics, la curie, où se réunissent les sénateurs. Se rencontrer quelques instants à l'agora ou au forum ne fonde pas une sociabilité véritable. Pour les citoyens, d'autres édifices sont des lieux privilégiés d'échange, depuis le bavardage amical jusqu'au complot politique. Les gymnases et les thermes. Ils sont indissociables de la cité et de l'éducation en Grèce. Les lieux où l'on enseignait la gymnastique étaient désignés indifféremment par le terme de gymnase ou de palestre. L'abondance des gymnases, retrouvés dans le monde grec ou hellénisé jusqu'en Afghanistan, atteste de leur importance. Athènes, par exemple, en possédait trois : l'Académie, le Lycée, le Cynosarge. Les lieux de spectacle. La communauté civique ne se réunit pas seulement pour les grandes célébrations militaires ou religieuses. Les foules se dirigent aussi régulièrement vers les lieux conçus pour le spectacle, édifiants, patriotiques ou tout simplement délassants. L'Odéon tire son nom du mot Odé, le chant, qui a donné Ode. C'est à l'origine un théâtre pour le chant. Le plus ancien, construit par Périclès à Athènes, fut détruit en 86 avant Jésus-Christ. Ce sont des édifices fermés contenant un auditorium. Ils servent aussi à Athènes de siège pour les représentants des tribus athéniennes. C'est surtout pendant l'époque impériale romaine, avec la multiplication des récitals, que sont construits les odéons. Le théâtre grec, à l'origine, ne se compose que de l'orchestra, place circulaire sur laquelle jouent les comédiens. Alors que les architectes grecs utilisent la forme des flancs des collines, les théâtres romains sont conçus en une succession de gradins installés sur des constructions voûtées qui ménagent des galeries et des issues vers l'extérieur. Le plus ancien édifice en dur est celui érigé par Pompée au Champ de Mars en 55 avant Jésus-Christ. Dans la Gaule romaine, construire un théâtre revient à marquer le lieu d'un exemple de la civilisation romaine. À Arles, Autun, Fréjus, Orange et Vaison-la-Romaine, par exemple, tous datant du 1er siècle après Jésus-Christ. Le cirque possède un plan rectangulaire avec une extrémité circulaire. Les courses de chevaux et de chars ont lieu sur la spina, terminée à ses extrémités par une borne autour de laquelle chars et chevaux tournent 7 fois. Elle est décorée de bas-reliefs, de statues, d'autels. À chaque extrémité se trouvent des portes destinées soit à donner passage au cortège, soit à ménager une sortie triomphale au vainqueur.
Le saviez-vous ? Le Colisée. Un colosse. Vespasien ordonne la construction du Colisée de Rome, plus vaste amphithéâtre au monde, en 72 après Jésus-Christ. Il sera terminé sous son fils Titus en 80. D'une superficie de plus de 2 hectares, il accueille jusqu'à 50 000 spectateurs. Le rez-de-chaussée comprend 80 arcs. La partie centrale, réservée aux combattants, étant entourée de gradins divisés en galeries concentriques. L'arène, à elle seule, mesure 86 mètres sur 54. Le Colisée était destiné aux jeux de gladiateurs, aux combats d'animaux, et il était même possible d'y reconstituer des batailles navales. Lors de son inauguration, qui dura 100 jours, 2000 gladiateurs y perdirent la vie, ainsi que 9000 animaux importés de l'Empire. À Rome toujours, le Cirque Maxime, Circus Maximus, est le plus grand édifice pour les spectacles jamais conçus. Il a accueilli jusqu'à 250 000 spectateurs sous Néron.
Les lieux de culture. Ayant épuisé son corps au gymnase, exulté au théâtre ou s'étant époumoné au cirque, le citoyen modèle aspire au calme et à la réflexion. Il dispose pour se cultiver de deux monuments adaptés. La bibliothèque, la plus célèbre, est celle d'Alexandrie. Fondée sous l'impulsion de Démétrius de Phalère dans l'enceinte du palais du roi Ptolémée Ier, elle renferme 700 000 rouleaux ou volumens. Aristote donne le modèle du classement des livres qui est alors adopté. La bibliothèque fut endommagée en 47 avant Jésus-Christ lors du siège d'Alexandrie par César. À Rome, les premières bibliothèques se forment sur le modèle des bibliothèques grecques d'Orient. La ville en compte 29 à la fin de l'Empire, en 476 après Jésus-Christ. À l'origine, un musée est le sanctuaire des muses, le lieu dans la nature où elles sont vénérées dans des sanctuaires rustiques. À l'époque hellénistique, c'est aussi l'endroit où les savants, sous leur protection, font leurs recherches. Chaque ville avait son musée, le plus célèbre étant celui d'Alexandrie.
N'oubliez pas, le tribut de la tribu. Le théâtre avait aussi une fonction civique. À Athènes, le principal concours théâtral était choisi pour proclamer les honneurs, ainsi que les récompenses décernées par la cité, et pour présenter au peuple l'excédent du tribut versé alors par les alliés. Au Ve siècle avant Jésus-Christ, la Ligue de Délos regroupe Athènes et des cités alliées afin de contrer la menace de l'envahisseur perse. Mais vers le milieu du siècle, quand les Perses ne seront plus une menace aussi pressante, Athènes transforme la Ligue en un ensemble de cités vassales, contraintes à lui payer un tribut. C'est le début de la constitution d'un véritable empire athénien, qui diffuse son modèle de civilisation, impose sa monnaie et sa justice.
L'architecture civique. Certains monuments sont davantage destinés à Rome à exalter les victoires des généraux et des légions, ou à devenir le centre des décisions politiques. Porte monumentale, arc de triomphe, basilique. Les portes monumentales sont destinées à commémorer des exploits militaires. Parmi les plus célèbres, la Porta Nigra, la porte noire de la ville de Trèves, porte fortifiée taillée dans des blocs de grès assemblés sans mortier, reliés par des fers scellés au plomb. L'arc de triomphe est une porte monumentale comprenant généralement une ou trois baies en plein cintre, entourées de colonnes et de bas-reliefs, destinées à accueillir un général victorieux. Il manifeste la transcendance du vainqueur sur le reste de l'humanité et célèbre plus l'empereur lui-même que sa victoire. À la fin du second siècle avant Jésus-Christ, la seule ville de Rome en comptait 53. 18 ont été retrouvées, dont l'arc d'Auguste, de Claude et de Titus. La basilique est un édifice public à plan allongé, divisé en trois nefs. Au second siècle, à Rome, il en existe quatre situées sur le forum. Les chrétiens font de ces monuments leurs premières églises. À l'origine, elles servent pour le marché, l'administration de la justice, pour les affaires en général. L'architecture utilitaire. À Rome, ville sans cesse en quête d'espace pour sa croissance, les architectes sont confrontés à la nécessité de pourvoir aux besoins de la population en eau. Au-delà de la ville, par excellence, cette exigence se prolonge dans tout l'Empire. Plusieurs ponts sont construits au 1er siècle, à Vaison-la-Romaine dans le Vaucluse avec une seule arche de 17,20 m d'ouverture, ou le pont Flavien à Chamas, long de 22 mètres, large de 6, formé d'une arche unique en appareil de calcaire jaune, encadré de deux arcs jumeaux en pierre blanche. Il sert à franchir une rivière, la Toulourbe, sur la voie romaine qui reliait Marseille à Arles. Les aqueducs sont construits afin d'alimenter les villes en eau. La tête capte l'eau des sources en montagne. Certains, montés sur une arche, ont donné naissance à des réalisations grandioses, comme le pont du Gard. Rome, à l'époque impériale, est alimentée par 11 aqueducs, dont le plus long, l'Aqua Marcia, faisait 91 kilomètres. Les lieux de culte. Certes, la cité, ici-bas, est celle des hommes qui l'occupent. Mais que serait-elle sans les divinités polyades, les dieux qui protègent la ville ou l'empire? Le culte civique est une obligation, y manquer une faute impardonnable qui met en péril le corps civique tout entier. Les temples reçoivent ainsi prêtres et fidèles confondus en une commune dévotion. Au VIe siècle, les grands sanctuaires grecs s'organisent de l'Ionie à la Sicile, Tholos de Marmaria à Delphes, temple de Déméter à Célinonte et de Poséidon à Héraclès. Dans la seconde moitié de ce siècle apparaît l'ordre dorique, utilisé pour le temple d'Apollon à Delphes et en 548 en Asie pour l'Artémision d'Éphèse. Au Ve siècle, le premier Parthénon, en grec le local des Vierges, est construit sur l'Acropole, mais le temple de Zeus à Olympie reste la grande œuvre de cette époque. Périclès, en 450, fait démarrer la reconstruction des édifices de l'Acropole ravagée par les Perses. Ce sera le nouveau Parthénon, en hommage à Athéna, déesse guerrière vierge.
Un peu de technique. Entrée dans les ordres. Les trois ordres grecs, sans cesse réemployés par les styles successifs depuis cette époque, sont le fondement de l'architecture grecque classique. Le dorique, au VIIe siècle, est le plus ancien ordre en Grèce antique. Ses caractéristiques sont des colonnes de pierre reposant directement sur le stylobate, creusées de 20 cannelures peu profondes, le rapport du diamètre maximal à la hauteur étant de 5 à 6. L'ordre ionique, au VIe siècle, présent en Grèce d'Asie ou dans les cités de la mer Égée. Ses caractéristiques sont des colonnes élancées, avec un rapport entre le diamètre et la hauteur allant de 8 à 9, creusé de 24 cannelures profondes et couronné d'un chapiteau à volutes. Le corinthien apparaît dans la seconde moitié du Ve siècle, en Grèce continentale. Seul le chapiteau diffère de l'ordre ionique, puisqu'il est orné de feuilles d'acanthe.
Le Parthénon. Déjà connu pour ses travaux au Télestérion, la grande salle des mystères d'Éleusis, Ictinos, est chargée en 447, avec l'aide de l'architecte Callicratès, de bâtir le nouveau Parthénon, le grand temple d'Athéna. Ses proportions sont classiques et sa façade d'une largeur exceptionnelle. 8 fois 17 colonnes, soit 30,88 mètres, multiplié par 69,50 mètres. La polychromie, héritée de l'architecture de bois et de terre cuite du VIIe siècle, subsiste. Les couleurs dominantes des frises sont le rouge et le bleu, agrémentés d'un filet d'or. 92 métopes, des intervalles carrés décorés de reliefs, mettent en scène le combat des dieux et des géants, la prise de Troie, le combat des Grecs et des Amazones, celui des Centaures, la naissance d'Athéna. Après avoir été successivement église, mosquée et poudrière, le Parthénon explose en 1687 durant le siège d'Athènes par les Turcs. Le Panthéon. L'architecture du temple romain est héritée de celle des édifices étrusques et grecs. Il y a cependant une tradition du temple italique qui se caractérise par un haut podium, un plan où les colonnes sont engagées dans le mur. C'est au cours du IIe siècle que l'architecture romaine se différencie de celle des Grecs. Le matériau de base est le blocage, composé d'un ciment très dur ajouté à des moellons. La brique crue fera ensuite son apparition dans la construction d'un temple révolutionnaire, le Panthéon d'Adrien, à Rome. Une partie du temple est une immense rotonde. Il s'agit là de la plus ancienne coupole en superstructure que l'Antiquité nous ait léguée. Le Panthéon est un temple traditionnellement consacré aux 12 plus grands dieux qui accueillent également la statue de l'empereur divinisé. Construit entre 115 et 125, il est transformé au 7e siècle en église chrétienne et sert aujourd'hui de nécropole pour les rois d'Italie. Victor Emmanuel II et Umberto Ier y sont inhumés. Sa structure à coupole a été reprise par d'autres architectes contemporains pour des universités et des bibliothèques aux États-Unis et en Australie. L'architecture médiévale. Le Moyen-Âge représente 1000 ans de mutation des styles architecturaux. Il s'ébauche avec les ruines des bâtiments de l'Empire romain, après sa chute en 476, évolue sous l'influence chrétienne avec l'Empire byzantin, puis prend des formes nationales voulues par la forte personnalité des empereurs francs, Charlemagne, qui règne de 771 à 814, et germanique, Othon Ier, qui règne de 962 à 973. Mais quelle que soit leur volonté de recréer un empire romain universel, ces souverains seront dépassés par les deux grands mouvements de l'époque, le roman puis le gothique.